I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et bienvenue sur Super Laser Punch, Super Laser Punch, Super Laser Punchy. J'ai pas trop de trucs japonais en ce moment, mais deux épisodes de Super Laser Punch de suite en une, dans deux semaines. Incroyable. Ouais. Johan, bonjour, il est tôt, tu es en forme, bienvenue. J'espère qu'on va passer un bel épisode ensemble. Comment ça va ?
Eh ben, ça va super bien. Oui, c'est vrai, il est un peu tôt pour nous là, mais écoute, moi je suis d'attaque.
Tu sais, en fait,
Toi, t'as une heure de plus, toi.
Bah oui, c'est ça. Pour moi, ouais, en Finlande, il est 8h30, donc ça va, tu vois, c'est l'après-midi presque. Alors que toi, 7h30, c'est dur. Mais j'apprécie ton sacrifice pour venir nous parler de Loki saison 2. Loki saison 2, donc, qui fait suite à une première saison qui n'était pas l'ouverture du MCU, mais pas loin. Et sur laquelle reposent les espoirs d'un peuple entier. Est-ce que pour les... Alors, je pense qu'on va faire avec spoiler du début à la fin, là, pour la série.
Oui.
C'est pas la peine de... On est d'accord. Hein.
Ah, on peut peut-être dire, si tu veux, on peut dire tout de suite si on a aimé ou pas, et puis après on passe en spoiler, comme ça,
ouais.
S'il y en a qui sont okay. Là par hasard.
D'accord, donc mini partie sans spoiler symbolique. Tu peux quand même nous resituer la série
La
saison 1, par contre, on peut dire ce qui s'est passé. Quoi.
Bah ouais, alors la saison 2 de Loki donc, fait vraiment une suite très immédiate à la saison 1. La saison 1, elle a quand même un positionnement particulier qui est important dans le contexte, c'est que. Effectivement, c'était le début des séries Marvel sur Disney+. Donc, il y avait quand même encore une certaine hype post-Endgame autour de ces projets-là. Et la grosse particularité de Loki saison 1, c'est que elle présentait, on le savait pas forcément encore, on s'en doutait, mais un tout nouvel antagoniste important de l'univers. Qui se révèle pas longtemps après, annoncé par Marvel comme être le grand antagoniste de toute une phase de encore 5-6 ans du film du MCU. Et là, du coup, cette saison 2 arrive dans un contexte un peu différent. C'est-à-dire que le MCU a un peu patiné pendant quelques temps. Kang, il y a beaucoup de questions qui vont se poser sur par rapport à l'acteur. Et au choix de Disney sur la suite de cette série qui commence quand même à avoir un peu de mal. Mais en tout cas, voilà, on reprend nos personnages vraiment juste après. Oui.
Parce que sur la saison 1, en fait, quand on termine, le méchant en question, effectivement, il est partout. Et étant donné les problèmes avec l'acteur, on se dit qu'est-ce qu'ils vont faire avec la saison 2, quoi. Et donc la question, comment qu'est-ce qu'ils vont choisir, qu'est-ce que machin. Donc,
Et donc on n'a pas notre réponse dans la saison 2. Hein. Pour l'instant, Kang est toujours là, donc ça, il y a pas de choix qui se dessine encore dans cette saison. Mais en tout cas, voilà. Donc on prend nos personnages là. Donc pour rappel rapide. Donc effectivement, tu disais Kang est partout et Loki se retrouve projeté dans, on pensait à la fin de la saison 1, une espèce de TVA alternative, on savait pas trop. Et donc voilà, la saison 2 va s'attacher à prendre le relais très direct.
C'est vraiment
et on va
c'est la même
les
scène,
personnages quoi. Dans l'action à ce moment-là. Donc on s'attend à retrouver tous ces personnages qu'on a vus dans la saison 1, Sylvie, Mobius et les différents agents de la TVA. Et donc voilà, je pense qu'il n'y a pas besoin d'en dire beaucoup plus. On reste un peu sur le même ton, c'est un peu la même ambiance, le même mood.
Ouais.
Et voilà. Donc, juste, on va s'arrêter là pour dire ce qu'on en a pensé rapidement, pour laisser partir ceux qui veulent pas être spoilés pour la suite. Donc toi, Patrick, t'en as pensé quoi alors ? globalement ?
Écoute, j'ai l'impression que les réactions à cette série sont très positives. Peut-être pas très très positives, mais que la plupart des gens l'ont beaucoup aimé à cette saison. Et je suis un petit peu moins emballé. Et du coup, je me dis que je suis dans la minorité, quoi. Je trouve que ça va, mais que le niveau par rapport aux autres séries, aux autres bonnes séries du MCU, n'est pas atteint et que ça patine beaucoup, quoi. Et on en parlera plus dans la partie spoiler, mais en gros, j'ai trouvé que c'était un potentiel un petit peu... Il y a des bonnes idées. C'est un petit peu ce que je disais sur The Marvels la semaine dernière. Je ne vais pas aussi loin, mais je trouve qu'il y a de bonnes idées en surface, mais que c'est un petit peu facile et que c'est un petit peu cheap. Et qu'au final, je pense qu'on va... Enfin, moi, je vais vite l'oublier, quoi. Enfin, vite l'oublier. Oui, il y a quelques trucs qui se passent, mais dans l'ensemble, à part quelques scènes, je ne sais pas si ça va... je pense que ça ne me marque pas, quoi, comme série. Et je pense qu'on va, on va s'opposer violemment sur cette...
Non, pas tant que ça. Je pense que... Tu vois, tu t'évoquais The Marvels... J'ai un positionnement un peu similaire à ce que j'avais pour The Marvel, c'est-à-dire que oui, j'ai beaucoup aimé, c'est sûr. J'ai beaucoup aimé, mais j'ai pas beaucoup aimé tout le temps, quoi. Et y a toujours un vrai problème de rythme dans ces séries. C'était déjà le cas dans la saison 1 de Loki, que j'ai aussi beaucoup aimé, mais où il y a tout un espèce de creux au milieu qui est à la limite du chiant, quoi. Et là, c'est un peu le cas. Et moi, ça me posait vraiment, c'est un truc que, voilà, c'est la question que je me posais un peu tout pendant que je regardais cette série, c'était de me dire, mais en fait, pour moi, il y a matière à faire un super film de, je sais pas, de 2 heures, admettons 2 heures, quoi, de faire 2 films Loki 1, Loki 2, quoi, de 2 heures chacun. Et je pense qu'il y avait vraiment matière à faire un truc super. Et le format série, même pourtant une série assez courte. Il y a finalement des péripéties, comme tu disais, faciles et un peu cheap, où on donne des prétextes à l'intrigue pour faire des détours, en fait, pour que ça tienne sur une série, qui sont pas forcément super intéressantes, ni super bien amenées, et parfois on rallonge un petit peu les choses, on les rend un peu plus lentes pour que ça tienne dans l'épisode. J'ai vraiment cette impression-là, en fait. Et du coup, je trouve que voilà, c'est une série qui a un problème de rythme. Mais voilà, moi il y a énormément de choses que j'ai adoré.
Ouais.
Un peu comme la saison 1, j'aime énormément le tout début, j'aime beaucoup 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 la fin, et au milieu je m'en passerai presque, quoi.
Ouais. Bon, on pourra en parler en spoiler. Ce qui est terrible, c'est que la série, ce template dont tu parles, c'est le reproche qu'on fait à 90% des séries du MCU, quoi. Ouais. Et limite, ils ont commencé à en parler. Il y a quelques... Enfin, j'ai vu une ou deux interviews sur le sujet récemment, et effectivement, ils disent, le problème, c'est qu'on ne sait pas faire des séries, on fait des films, ou en tout cas, l'intention artistique, c'était, on sait faire des films, bon, les séries, c'est pas dur, on va prendre l'idée d'un film, et puis on va allonger un petit peu, on fait ça sur 6 heures au lieu de 2 ou 2 et demi, c'est pas si compliqué, quoi. Et ils sont victimes de ce problème sur énormément de leurs séries. Alors, il y a des fois où c'est bien... Quand même, il y a des fois où c'est catastrophique pour d'autres raisons, mais ce problème est récurrent depuis maintenant 3 ans. Et c'est terrible qu'ils ne réussissent pas à même comprendre que c'est un problème. Enfin, j'imagine que culturellement, dans une entreprise, dans la culture de travail de l'entreprise, ce n'est pas facile de faire tourner le paquebot. Mais c'est toujours, je trouve ça toujours tellement bizarre quand le public entier comprend une problématique, que ce soit dans le cinéma ou la télé ou le jeu vidéo ou ce que c'est, et que... alors, il y a certainement des raisons qu'on ne comprend pas, hein, c'est toujours le cas, mais il y a des fois où les trucs sont tellement clairs, tu te dis, mais comment eux ne peuvent pas le voir ? Et ça, enfin, je suis content que toi aussi, tu trouves que quand même, il y a des méandres dans lesquels se perd la série, parce que ça m'a sauté aux yeux, quoi. Mais bon, il y a aussi des bonnes choses. Effectivement.
Ils avaient annoncé qu'ils arrêtaient, je crois, ce format de série-là, ce format limite, ce qu'ils appellent limited série, je crois.
Ouais.
pour se concentrer sur plutôt des grosses séries avec vocation à faire plein de saisons, tu sais, avec plus d'épisodes. Et donc peut-être qu'ils ont déjà réfléchi à une nouvelle façon d'apporter
des
histoires, mais...
Oui, ils ont rebooté d'ailleurs Daredevil Born Again, visiblement Echo, dont on a vu le trailer. On pourra en parler à la fin d'ailleurs du trailer de Echo. Je ne sais pas si tu l'as vu. Mais...
Non, je ne l'ai pas regardé.
Ah, tu ne l'as pas regardé? Ah, ok, bon, bah, on n'en parlera pas. Je vais juste dire du coup que moi, je suis très agréablement surpris parce que je vois dans le trailer. Mais vraiment. Donc, et pourtant, ouais. J'en attendais pas grand-chose. Donc, on va voir. Hein, mais elle arrive en janvier, je crois. Mais le truc, c'est que faire une série plus longue, c'est pas forcément ça. Alors évidemment, ça peut te permettre de développer les personnages, mais c'est pas ça le problème. C'est pas que les séries soient courtes qui est le problème, parce que les séries plus longues, tu peux tomber dans d'autres travers. Tu peux te mettre à faire des séries où ça va devenir hyper épisodique, procédural, où tu vas avoir le méchant de l'épisode. C'est pas forcément ça qui va automatiquement corriger les problèmes. Tu peux tout à fait faire une série en 6 épisodes qui soit hyper intéressante et bien foutue, si elle est bien pensée. Donc moi, je crains que, tu vois, cette question... pose des soucis aussi, quoi. Mais bon, bref. Écoute, on verra à l'avenir. Pour le moment, on se lance dans la partie spoiler.
Allons-y.
Donc, spoiler. Arrêtez d'écouter si vous n'avez pas vu la saison dans son ensemble.
Yes.
J'ai peur d'être trop négatif. Donc, je vais te laisser parler. Il y a beaucoup de choses que tu as aimées.
Ouais.
Dis-nous avec spoiler ce qui t'a plu, ce qui t'a pas plu.
Alors pour moi, c'est vraiment départ canon. J'ai vraiment adoré le tout premier épisode. Donc pour moi, le début vraiment commençait vraiment très très chouette, parce que on finissait sur un mystère, et j'ai beaucoup aimé en fait la façon dont ils ont pris ce mystère, et en fait c'était quasiment résolu dès le premier épisode, d'une part, pour ensuite rappeler ce problème-là plutôt en fin de saison. Donc on pensait que c'était résolu, puis en fait voilà, ça revient. Donc on fait vraiment, pour moi, ce premier épisode, je trouve vraiment très cool, où tu découvres petit à petit, tu commences à comprendre qu'il voyage dans le temps, et puis après tu découvres ce nouveau personnage qui est Obi. Alors toi, je sais pas ce que t'en as pensé. Moi, j'ai beaucoup beaucoup de sympathie en fait pour ce personnage. Je trouve ça un très chouette ajout, on va dire, au groupe. Et du coup, voilà, pour moi, ça partait super bien.
Sur ce premier épisode, je trouve que la pirouette de dire ah ben non, en fait, c'était dans le passé, et non, on doit te ramener ton essence temporelle dans le présent, machin. J'ai trouvé que ça passe, mais vraiment, j'ai eu l'impression que ils avaient merdé avec la fin de la première saison, et ils avaient fait une smoke monster en fait. Il s'est dit, waouh, ouais, putain, s'il y a un truc, on voit avec Kang partout, ça serait trop fort. C'est comme, oh, regarde, s'il y a un smoke monster, ça serait trop incroyable. Et puis, il y a des ours polaires sur l'île, machin. Et en fait, tu sais pas du tout où ça va. T'as aucune idée de ce que tu veux faire. Et au début de la deuxième saison, en fait, tu dis, ah ouais, non, mais en fait, c'est pas cool si tout à coup la TVA, c'est devenu Kang partout et qu'il est le maître de la TVA. Non. On va dire, on aurait dit que, en fait, c'était dans le passé. Dans le passé de quoi? On sait pas. Et il y a quelqu'un qui tue Loki par derrière pour le pruner. Et en fait, ça le ramène et ça va être trop fort de se demander qui c'est. À la fin de l'épisode, mais tu sais immédiatement que c'est lui-même qui l'a fait.
C'est vrai.
Et c'est pas... Et le problème, c'est que en sautant un tout petit peu, genre 2 ou 3 épisodes plus tard, en fait, c'est un détail, le fait que ça soit lui, tu vois. C'est que des artifices, en fait. Tu changes toute l'histoire de la fin de la saison 1, mais on s'en fout. C'était juste, oh, en fait, on aurait dit que c'était pas ça. Le truc, le mystère de fin, c'est encore une smoke monster. Oh, qui l'a tué? À la limite, c'est quand même Loki, on l'a deviné. C'est pas grave. Mais il faut que ça soit... un élément clé de ton histoire, de la saison. Non, en fait, c'est juste... il passait par là, il a vu... Ah merde, ah oui, ok, il fallait que je fasse ça, je l'avais oublié dans l'épisode 1. Ok, bon, bah, je vais le faire, ok. Ouroboros, il est cool, je le trouve très sympathique, mais il sort de nulle part. C'est juste un personnage qui vient rejoindre l'équipe. T'as l'impression que c'est un nouveau perso de l'agence touriste, quoi. Il est bizarre, mais tu sais pas pourquoi, tu sais pas d'où il vient, tu sais rien. Pourquoi est-ce que lui, il est là depuis toujours à travailler dans ce truc-là ? Pourquoi c'est lui ? Pourquoi c'est... On sait pas. Donc tu vois, il y a plein de petits artifices comme ça qui, pour moi, manquent tellement de profondeur que ça me gâche presque le plaisir de l'artifice. Donc oui, j'ai bien aimé l'épisode 1, mais j'étais quand même un petit peu, comment dire, sur mes gardes. Et la suite ne m'a pas prouvé que qu'ils avaient raison de le faire comme ça. Donc oui, mais...
Ouais, moi j'ai pas eu cette impression-là de... Tu sais, ils savaient pas où ils allaient, ils avaient pas encore décidé, et puis en fait, tu vois, enfin...
Toi, tu penses que quand ils ont écrit la finale de la saison 1, ils savaient ce qu'ils allaient faire au début de la saison 2 peut-être,
Je pense que dès ce moment-là, ils savaient qu'ils pouvaient faire soit l'un, soit l'autre, et qu'ils avaient sûrement déjà écrit des choses, tu sais, différentes pistes, quoi. Parce qu'ils savaient que c'était un mystère, ils le présentent aux gens, ils savaient ce que les gens allaient se poser comme questions, et ils ont sûrement décidé d'aller en contre-pied, de dire, en fait, les gens vont croire que c'est ça, et en fait, c'est autre chose. Après, je suis d'accord que c'est résolu super vite, mais je trouve que c'est résolu super vite et que ça sert quand même, ça reste, on va dire, dans la série et ça sert un petit peu l'intrigue. Après, je te rejoins. En fait, ce côté de passer, il se fait pruner par lui-même, etc., ça, c'est vraiment un typique épisode Doctor Who. Mais effectivement, c'est un petit peu cheap, un petit peu mal amené. C'est-à-dire, effectivement... il se fait prune, tu dis bon bah il va y avoir un mystère sur qui c'est, bon beaucoup de gens vont deviner, mais on sait jamais, tu saurais peut-être être un autre personnage qui remonte dans le temps pour aider Loki, enfin ils auraient pu partir sur autre chose, mais en tout cas oui, tu te dis bah oui, il s'est pruné lui-même avec le voyage dans le temps,
ça c'est évident, et il aurait fallu qu'il y ait quelque chose d'intéressant dans ce nœud là. Tu vois, c'est ça que le fait que ça soit lui-même, je lui reproche pas, on s'en fout. Oui, on l'a deviné immédiatement, mais c'est pas grave, si c'est intéressant derrière.
Oui, voilà, c'est ça. Effectivement, finalement, cette boucle-là se résout. Limite, t'as oublié qu'elle a existé, en fait, parce qu'il n'y a pas d'événement relié à ça de particulier. Et ouais. C'est clairement une péripétie qui... Tu vois, je l'aurais presque oublié, moi, en fait, d'en parler.
Ouais, bah exactement.
Le fait qu'il se prenait lui-même et qu'il le résout, t'as raison, ça n'a aucun impact. L'idée est sympa, mais t'as l'impression qu'ils ont exploité le truc pour l'exploiter sans l'intégrer dans quelque chose d'intéressant.
Ouais. Et c'est ce que je reproche un petit peu à la série dans son ensemble. Mais toi, ça t'a moins
posé problème. Ouais, alors moi, je suis vraiment un public assez facile. Alors, je suis un public assez facile quand il est question de ce genre d'artifice-là, quoi. Des petits voyages dans le temps, les paradoxes, ce genre de truc-là, ça me plaît beaucoup, ça m'amuse beaucoup, en fait. Et je sais le voir quand c'est facile, mais ça m'amuse quand même, en fait.
Ouais. Bon, ok, mais donc, ça, c'est un détail, donc, un des nombreux détails de la série.
C'est vraiment un détail.
Mais pour le reste...
Moi, Obi m'a vraiment pas posé de problème. Je pense que j'ai un fond de sentiment un petit peu comme le tien, c'est-à-dire qu'effectivement, bah, il arrive, il est là, il a son caractère un petit peu, voilà, un petit peu excentrique, machin. Mais bon, tu sens clairement que, à moins que Loki cartonne et que le personnage devienne vraiment populaire auprès des fans, je sais pas du tout ce qu'il en est. Je pense qu'on le reverra plus jamais, quoi.
Bah oui.
On reverra peut-être Mobius dans un caméo dans des films ou ce genre de choses là, mais effectivement Obi, je pense qu'on le reverra plus jamais, donc effectivement je pense que je comprends très très bien en fait ce qu'on peut penser de ce personnage. Bon, après pour la suite, donc l'intérêt entre guillemets, le fond de cette série, ça va être de présenter un peu les origines de la TVA, les origines de ce que peut être Kang, donc avec un nouveau variant qui va être Victor Timely, que j'aime pas du tout.
Ah ouais? C'est marrant, moi ouais. J'allais dire, bah, c'est le truc que je trouve pas trop mal.
Alors, au début, l'épisode où il est présenté, là où il est dans sa foire, où... Oui, d'ailleurs, cet épisode-là, je n'aime pas beaucoup, hein, parce qu'ils passent leur temps à courir à droite à gauche.
Ouais. Bah, c'est typiquement un épisode de remplissage, quoi.
Et puis son bégaiement que je trouve un petit peu factice. Voilà, c'est un personnage. Je me suis vraiment demandé, oulala, vraiment, vers quoi ils vont avec ce personnage-là. Ça va beaucoup mieux à la fin, à la toute fin pour le coup, où j'ai commencé à accepter ce personnage-là. Mais ouais, j'étais assez déçu en fait de la performance de Major sur ce variant. Toi, t'as bien aimé, toi. Alors,
C'est pas incroyable, mais tu vois, il y a un gimmick auquel il se tient dans une série, ça va. Et puis j'ai trouvé le personnage sympathique. J'ai bien aimé le fait que c'est un Kang, mais c'est pas un Kang machiavélique. Enfin, tu vois, quand on a vu ceux de Quantum Mania, on se dit qu'est-ce qu'ils vont nous sortir.
Oui, c'est sûr.
Et c'est un Kang dont tu peux, au cours de la série, qui commence comme quelqu'un de normal, qui n'a pas eu beaucoup de chance dans sa vie, qui a été un petit peu malmené par la vie. Et tu peux voir comment non seulement il devient un génie, grâce notamment au livre d'Ouroboros, mais en plus tu peux voir les prémices quelque part de son glissement vers le méchant maléfique. Mais ils ne vont jamais tellement loin que ça devient caricatural ou qu'il le montre trop. Tu sens juste dans le personnage, parfois, quelques actions, quelques sourires, comment il trahit un tel et un tel, comment, tu vois, ou comment il préfère sauver sa peau. Et donc, je trouve que ça fonctionne par cet aspect. Le personnage montrait une autre facette encore de Kang et des variantes de Kang. Et c'est pas juste, oh bah là c'est Loki en vieux, ou là c'est Loki en alligator, ou là c'est Loki en meuf, tu vois. C'est vraiment un personnage qui a une personnalité intéressante. Donc voilà, j'ai trouvé le perso pas mal, mais c'est pas non plus, je me prosterne pas devant le génie créatif et d'acteur, tu vois, c'est juste, ouais, c'est sympa.
Et l'autre aspect de cette présentation de Kang et de Victor Timely, c'est aussi, du coup, la présence de Ravonna et de Miss Minute, qui sont censées faire partie, on va dire, de son passé, de sa construction de méchant, de personnage, enfin de ce qu'il est, quoi. Et ça, par contre, ça rentre pile dans ce creux, moi, qui m'a complètement perdu. C'est-à-dire que j'ai trouvé vraiment, alors là, pour le coup, vraiment, tout le rapport à Miss Minute et à Ravonna, super décevant et complètement inintéressant. Et pareil, ça aurait pu être vraiment enlevé de la série sans que c'est un impact particulier sur ce que moi, j'en éprouve comme intérêt. Donc, au début, on a toute une mise en place autour de ce que Ravonna a fait pour Kang pendant la guerre multiverselle, son importance dans la création de la TVA. Miss Minute qui commence à prendre son indépendance d'intelligence artificielle. Et finalement, j'ai l'impression que ça a disparu de la série quasiment sans rien faire, quoi.
C'est ce que j'allais dire. Encore un truc qui va nulle part. Renslayer et Miss Minute. Alors Miss Minute, on la voit. Tu te souviens où elle finit, Renslayer? Moi, j'en ai aucune idée. J'ai vu la saison de la série, je l'ai suivie, je sais même pas où elle est à la fin.
Je m'en souviens parce que j'ai revu l'épisode
ah
hier.
Bah d'accord, ok, facile.
En fait, par contre, j'ai revu le dernier épisode du coup avec ma femme, et effectivement, elle se réveille, elle se retrouve, tu sais, à la fin des temps, là, comme quand t'as été prune.
Oui, oui.
Et encore aujourd'hui, je sais pas à quel moment elle a été prune, en fait. Je me rappelle plus.
Ouais. Tu vois, mais elle se retrouve à la fin des temps, mais elle repart après. Elle ouvre une porte, une time door.
Non, on suppose qu'elle est devant Eliath et qu'il arrive sur elle et c'est tout.
Ah, quoi. Et c'est là que ça se termine, d'accord, ok, bon, super. Oui, effectivement, je me souvenais de ça, mais je me souvenais même pas que c'était la fin, tu vois. Ouais, bon. Et en fait, mon problème avec toute la saison, c'est ça, c'est qu'il y a plein de trucs. Tiens, par exemple, Brad et la rébellion à la TVA. Ça aussi, truc qui aurait pu être assez intéressant, machin, mais ils se font compresser dans leur cube. Brad, il aide Ravonna, et puis, mais ça servait à quoi, ça? Enfin, la structure narrative de la saison, je pense qu'il y a énormément de gens qui vont aimer cette saison, qu'il aime pour l'esthétique. Ok, l'esthétique, elle est cool, c'est pas mal. Enfin, ils ont repris la première saison, hein. Mais c'est quand même sympa, c'est bien filmé, c'est beau, c'est bien photographié, etc. Mais je pense qu'une énorme partie des gens vont aimer la saison parce que la fin est cool. Parce que la dernière scène, c'est Loki qui est en train d'être un badass god qui se met au centre.
Vraiment en miroir sur la saison 1, en fait. Parce que la saison 1, il y avait ce dernier épisode quand même super marquant. Et ça démarrait bien aussi, mais grosso modo, il y avait 4 épisodes sur 6 qui n'étaient pas ouf, quoi. Et la fin était vraiment marquante. Et là, je pense qu'on est sur un équivalent, quoi. Effectivement, moi, je trouve que ce dernier épisode est vraiment super. Et badass et tout à la fin. Et que oui, ça laisse un souvenir. Moi, ça m'a fait vraiment un peu oublier tous les délires de résistance. Pour moi, c'est vraiment même plus dans ma tête. Je sais même pas comment ça s'agence.
Mais tu te souviens de la scène avec Loki qui attrape toutes les timelines et qui en fait Yggdrasil.
Ouais. C'est ça. C'est incroyable. Ça. Visuellement, alors, c'est vraiment génial, quoi.
Oui, je suis d'accord. C'est très très cool. Le problème, c'est que c'est amené avec les pieds. C'est amené... je comprends l'idée que Loki est coincé dans une boucle temporelle. Il essaye tout ce qu'il peut pour changer la timeline. Et il essaye d'éviter le fait de tuer... Sophie, Lucie, Julie...
Sylvie.
de tuer Sylvie. Et Kang veut l'amener à tuer Sylvie. Enfin, lui, il a cette timeline et il y a deux choix. Hein. Soit il laisse Sylvie le tuer, et soit il tue Sylvie. Et lui, il n'abandonne pas jusqu'à ce qu'il ait trouvé une autre option. L'idée est cool, est forte, est intéressante. Le problème, c'est que... Alors déjà, ça n'arrive qu'au dernier épisode. C'est plus ou moins avec les prémices, ils essayent de changer quelque chose. Le time loom, on ne sait pas à quoi ça sert. Pendant 90% de la série, on ne sait même pas à quoi ça sert. Je veux dire, ah merde, il faut le réparer, sinon ça explose. Mais ça fait quoi ce truc? Pourquoi c'est important? Ça compresse les timelines? Mais il y a une infinité de timelines. Qui l'a mis? Pourquoi? On a libéré les timelines, donc on n'a plus besoin de les compresser et de pruner les autres. On les a libérés. Enfin, bon, bref. Peu importe. C'est encore un MacGuffin débile. Ça arrive dans le dernier épisode, cette mécanique de « je vais essayer de casser la logique et de sortir de la timeline ». C'est un peu classique, mais c'est intéressant. Sauf que je trouve que c'est moyennement fait, quoi. On ne comprend pas bien qu'il est en train de chercher quelque chose jusqu'à 10 minutes avant la fin où il dit « Non, je vais réussir à trouver une autre option, je ne vais pas abandonner, je ne vais pas me laisser faire. » Et là, il fait quoi? Alors, il sort du truc, mais lui, il n'est pas affecté par les trucs de temps et il attrape les timelines et il se transforme en Loki. Ok, c'est ce qu'on disait un petit peu la semaine dernière, c'est « Ta gueule, c'est magique ». Alors, c'est moins gênant. Je ne dis pas que c'est horrible. Hein. Ça m'a plu aussi, je suis honnête. Ça m'a plu, j'ai trouvé ça cool, j'ai trouvé ça intéressant. Mais c'est quand même un peu ta gueule, c'est magique, quoi. C'est genre Loki qui décide de...
Un peu. Ses vêtements qui se... Les vêtements qui se génèrent quand il marche, qui sont des vêtements un petit peu...
C'est ses vêtements de Dieu, mais... donc...
Ouais, mais c'est on l'a jamais vu avec ces vêtements-là dans dans aucun des films séries. C'est comme s'il pensait mode pendant qu'il est en train de.
Non, mais je pense que tu vois même. Alors du coup, je vais le défendre un peu. Non, mais... C'est son. À ce moment, il identifies as a god. Tu vois, et c'est juste dans sa conscience de maintenant je fais ça que toute son identité se colle à ce qu'il est en train de faire et il redevient le dieu Loki qu'il a été. Et j'ai beaucoup aimé, par exemple, aussi le fait que le rappel du Burdened with Glorious Purpose, qui est d'ailleurs le titre de l'épisode, Glorious Purpose, et qui était le titre de l'épisode 1 de la saison 1, donc c'est vraiment Ouroboros, le serpent qui se mord la queue, tout ça, c'est malin. Et le retournement de cette idée est le fait que Kang dise, tu sais, quand tu dis « burdened with glorious purpose », généralement, les gens oublient qu'il y a plus de burden que de glorious, quoi. Et c'est exactement ça, la fin de la série, c'est son fardeau de devoir être celui qui tient la timeline en enfin qui tient les timelines en place et qui se sacrifie pour que tous les autres puissent continuer à exister. Et c'est vraiment son fardeau. Et c'est un sacrifice inimaginable, quoi, évidemment.
Je reviens vite fait sur le Loom, du coup, parce que du coup, Kang, il explique rapidement ce que c'est, donc pour ceux qui écoutent et qui se demanderaient ce que c'est ce Loom. Ouais. Donc en fait, effectivement, toutes les timelines passent dedans, et en fait, ce truc, il n'est pas fait du tout pour
ordonner, gérer pour corriger, timelines.
C'est juste que si ça part hors de contrôle, si la TVA, par exemple, arrête de gérer les timelines comme c'était supposé être le cas, et ben le truc, il est fait pour que toutes les timelines qui existent se détruisent, sauf la principale. Et parmi ces timelines qui se détruisent, la TVA en fait partie. Elle ne fait pas partie de la secret timeline directement. Donc c'est pour ça que effectivement tout se détruit. Maintenant, effectivement, moi, j'aime beaucoup ce final pour Loki parce que et j'aime bien en fait comment ce moment est amené. Il y a plusieurs. Donc, du coup, effectivement, il passe des et ça, je trouve que c'est peut-être pas assez appuyé. Moi, j'aime beaucoup cette idée qu'il a passé des siècles à gesticuler dans tous les sens, en fait, vraiment. Je pense qu'ils auraient pu. Je sais pas comment ils auraient pu faire, mais vraiment à plus appuyer ce temps.
Je suis d'accord.
Qui passe et il se rend compte qu'il y a effectivement aucun choix. J'aime beaucoup d'ailleurs le retour à la scène au combat contre Sylvie devant He Who Remains.
Ouais.
Où on comprend petit à petit, on voit un Loki devenir vraiment surpuissant déjà intellectuellement parce que du coup avec les siècles il apprend tout ce qu'il faut savoir sur le temps, la physique, etc. Il commence à acquérir aussi des pouvoirs assez dingues de manipulation du temps de son côté. Donc moi je trouve ça assez intéressant, surtout quand tu veux voir du super-héros, bah là pour le coup là t'as quand même on aurait pu être un peu mieux servi exploiter ce truc-là. Mais en tout cas, il finit par effectivement comprendre qu'il va devoir se sacrifier et je sais plus à quel moment de la série où il dit texto que sa plus grande peur c'est de finir seul quoi. Ouais. Et que là il a trouvé son groupe d'amis, tu vois, nous on parle de Obi, de ces personnages un peu secondaires là, B15 etc. Nous on a l'impression que c'est pas des personnages non plus super importants, tu vois, vraiment ils sont un peu secondaires là, ils sont là, mais pour Loki ça fait des siècles et des siècles qu'il essaye de les sauver et du coup il a enfin ce groupe d'amis qui manquait un peu au personnage initial de Loki, hein.
Ouais. Et qui s'est formé d'ailleurs dans la timeline où il est tué par Thanos, c'est ça qui s'est passé aussi pour lui, il est passé du loner dark edgy il a son groupe d'amis parmi son frère et ses potes.
Et du coup, il finit par sacrifier, prendre cette place qui va faire qu'il est seul pour l'éternité, à devoir maintenir un truc un peu à l'image d'Atlas, quoi, qui doit porter le monde, etc. Et donc, du coup, effectivement, pour un personnage de Dieu, donc ça marche super bien, quoi. Je trouve que l'idée est incroyable. J'adore vraiment ce truc-là. Je trouve que la fin est top, vraiment très réussie de ce point de vue-là, mais que ça manque malheureusement un petit peu d'un meilleur build-up vers ce truc-là, quoi. Un truc aussi intense, j'aurais bien aimé voir ça au milieu de la série, en fait. Un truc au milieu de la série aussi intense, qui nous fasse mieux comprendre le temps qui passe, les jeux temporels. Rendre plus intéressant le fait qu'il aille dans les timelines pour essayer de changer des choses avant Sylvie, parce que toi, finalement il retourne au combat contre Kang, on aurait pu le montrer qu'il retourne encore avant, enfin tu vois, et c'est là, et pour moi le cœur de la série il aurait dû être là, en fait pour moi la série c'est ça, ça aurait dû être le premier épisode et puis très vite cette histoire de temps et la série devrait consister à Loki qui essaye des trucs,
ouais.
Tu vois. Ben, au lieu de partir sur Ravonna, sur Miss Minute, sur machin, quoi. Et ça aurait donné encore plus de poids à ce final. J'aime beaucoup l'esthétique, hein, de l'arbre d'Yggdrasil, qui est un hub, même dans la mythologie nordique, hein, c'est un hub entre différents mondes. Ceux qui jouent à God of War le savent aussi, quoi. Et du coup, ça marche super bien dans le cadre de ponts entre différentes timelines. Ça fonctionne vraiment du tonnerre. Et donc voilà. Et donc,
ouais.
Je
trouve, pour préciser sur mon avis sur le truc, je trouve que l'idée finale est hyper forte, que visuellement, ça marche super bien. Que, comme je le disais, le Glorious Purpose, c'est hyper malin, que Yggdrasil, c'est hyper malin. Enfin, vraiment, tout ça, je suis complètement d'accord avec toi. Et si ça avait été... Je me demande s'ils n'ont pas fait la série et qu'ils se sont dit, bon, bah, comment on peut finir? Parce qu'on a toutes ces histoires de temps, machin, merde. Pff, qu'est-ce qu'on peut faire à la fin? Ah, attends, j'ai une idée. Et si on faisait, machin... Bon, je suis peut-être un petit peu méchant avec les auteurs, peut-être qu'ils y pensaient dès le début, mais dans tous les cas, je suis 100% d'accord avec toi, ils auraient dû... C'est ça la série, c'est ça l'idée de la série. Ils auraient dû se focaliser là-dessus et nous le faire sentir au moins, peut-être plus subtilement que Loki saute partout pour essayer de corriger des trucs, mais ils auraient dû nous baser la série sur ce thème-là. Et c'est hyper dommage. Parce que, et même, ils auraient pu mettre Ravonna et l'histoire de Mobius et enfin tous ces trucs auraient pu et Timely, tous ces trucs auraient pu être dans le contexte de Loki qui essaye de tout changer, mais et ça aurait été beaucoup plus cohérent. Enfin, c'est vraiment là encore un potentiel gâché, parce que je suis d'accord, ça c'est une idée hyper intéressante pour la série, mais bon.
Et du coup, je me suis un petit peu renseigné sur ce Loki là, le Loki de fin qui tient les timelines. Je sais pas si tu as regardé un petit peu.
Ah, pas du tout. Il a une origine dans les comics. Enfin, il existe.
Ouais. Alors, et ça, c'est assez rigolo parce que ça, dans les comics, ça arrive à peu près au même moment. En fait, c'est juste avant. Enfin, c'est un peu avant ou juste avant le Secret War en fait dans les comics que Loki acquiert. Voilà, cette espèce de pouvoir un petit peu. Du multivers et elle devient d'ailleurs, c'est une Loki, déesse des histoires, Goddess of Stories. Et je trouve ça assez rigolo parce qu'à ce moment-là, donc le Secret War s'apprête à commencer et elle décide de se barrer. Elle ouvre une porte vers rien en disant ce chapitre-là m'intéresse pas, moi je vous donne rendez-vous au suivant, et après t'as Secret War qui va commencer juste après et on retrouvera du coup cette déesse-là après, au chapitre. Donc je trouve ça marrant parce qu'en termes de timing, ça correspond, quoi. On est censé arriver sur Secret Wars aussi. Donc ils n'ont pas tiré l'idée complètement
de nulle part.
De
bah, ça se trouve. Mais tu vois, cette idée qui est géniale, ça se trouve, elle vient pas d'eux. Et ils se sont dit, ah, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On est avant Secret Wars. Ok, on va arriver à la fin à Loki devient God of Stories. Mais comment on peut y arriver? Alors attends, on va mettre Ouroboros. Ah, Renslayer, si on la mettait là. Ok, très bien. Et ça se trouve, le seul truc bien ne vient pas de.
Bon. Oui, c'est ça.
Ouais. Ok. Et du coup, ce qui est intéressant pour le MCU également, c'est que tu peux tout à fait imaginer, à un moment, hein, on est dans les comics, mais on peut imaginer que Loki revienne après Secret Wars, par exemple, ou même pendant, ou j'en sais rien. Et ça serait tout à fait justifié. Peut-être qu'il a mis, je sais pas, un balai pour tenir les timelines et puis il va faire d'autres choses. Il y a plein de trucs qu'on peut imaginer. Mais du coup, le personnage, il devient hyper intéressant. C'est un... Pendant que tous les super-héros sont en train de se battre contre des aliens ou contre des magiciens ou contre des... Tu vois, il devient un personnage de comment dire, à l'échelle... des dieux de Doctor Strange. C'est plus que cosmique. Il a tenu les timelines et il revient, il dit, oh mais pff, vous savez les enfants, moi c'est...
Vous gesticulez là, mais...
ouais, quand vous aurez vu ce que j'ai vu, vous comprendrez les choses différemment, quoi. Tu sais, c'est... Et le dieu un petit peu, comment on dit, jaded, genre un petit peu blasé, pour qui rien n'a d'importance, qui est irritant pour ça... Ça en fait vraiment, ça construit le personnage d'une manière hyper intéressante. Donc sur ça, ça me rend assez enthousiaste sur ce que pourra donner Loki dans 5 ans, 10 ans, peut-être plus joué par Tom Hiddleston ou peut-être encore joué par Tom Hiddleston, je ne sais pas. Mais du coup, pour le personnage,
c'est une belle conclusion pour le personnage. C'est une belle conclusion.
Ouais.
On a envie de. Enfin, moi, j'ai super envie de le revoir. Et c'est marrant parce que j'étais pas un très grand fan de Loki avant la série Loki. Et c'est devenu vraiment mon acteur préféré du MCU et vraiment un de mes personnages préférés. Et j'aime du coup maintenant j'ai envie de le revoir plus tard. Ouais. Après, ça va être un personnage difficile à protagoniser parce que du coup maintenant qu'il est ultra puissant et tout ça pas forcément facile à exploiter sans lui remettre un petit peu de d'échelle humaine dans ce qu'il fait. En tout cas voilà, donc la TVA s'est accommodée à ça et ça c'est pour ça que j'ai dit au début que visiblement ils ont pas encore en tout cas dans la création de Loki ils n'ont pas décidé trop de encore où est-ce qu'ils allaient ensuite, mais voilà, la TVA s'est accommodée à Loki et on commençait à chercher les variants de Kang pour les pruner, j'imagine. Mais du coup bah ça pour la suite j'avoue que je sais pas du tout. Il y a plein de rumeurs en ce moment. Les scénaristes qui bossaient initialement sur la suite avec Kang, on ne travaille plus dans le MCU.
Dieu merci.
Et d'autres personnes.
C'était machin de Quantum Mania, donc on se dit ok, bon débarras.
Le procès, c'est dans 15 jours. J'imagine que pour Disney, ils peuvent. Enfin, eux, la solution facile pour eux, c'est de se ranger, on va dire, un peu à ce qui va se passer de ce côté-là. Mais après, est-ce qu'ils vont garder Kang pour le changer, pour changer d'acteur ou partir sur autre chose ? Pour le moment, on ne sait pas trop quoi.
On ne sait pas, oui.
Je ne sais pas s'ils referont, tu sais, parce qu'ils avaient quand même annoncé ces phases 5 et 6 en grande pompe, avec des graphiques, avec des timelines, sous la liesse des fans. Et tout ça, et ils sont dans une position assez compliquée, quoi.
Bah bien sûr. Pour le moment, en tout cas, on n'a pas l'air de dire au revoir à Kang ni à John Majors. Hein. C'est, il continue full steam ahead avec l'acteur. Enfin, le personnage, à la limite, tu dis qu'il pourrait le changer. Il continue avec l'acteur. Il pourrait changer l'acteur. Hein. Il sait des variantes. On sait que... Bon, bah voilà, on en a vu dans Quantumania. Peut-être que... Tu vois, il suffirait de mettre des John Majors en fond, même en image de synthèse, et faire un autre acteur principal. Et je pense que ça conviendrait à tout le monde. On dit, bon, bah, ils ont changé d'acteur parce que Majors n'est pas fréquentable. Et c'est toujours possible encore aujourd'hui. Mais clairement, ce n'est pas la direction qu'ils semblent prendre. Bon, bah, ils attendent peut-être le procès, ce qui ne me semble pas si incohérent que ça. Hein,
notez quand même que Loki a été tourné bien avant... l'émergence de ces problèmes-là.
C'est vrai, ça fait un moment pourtant qu'il a été accusé.
Ouais, ils avaient tourné, ça a été retardé, la série est sortie assez tard en fait, mais ils avaient déjà bouclé le tournage et le showrunner disait qu'ils ont livré le projet tel qu'il a été conçu. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait de reshoot du tout et ils n'ont pas modifié de trame scénaristique.
Bah, wait and see, hein. Je pense que c'est compréhensible comme décision. Mais oui, bon, enfin, je pense que de toute façon, c'est difficile de pas faire Secret Wars là. Tu vois, c'est vers quoi tout le temps. Et...
Oui, et puis je pense que ça fait partie intégrante des plans pour parler des X-Men. Donc je pense qu'ils vont pas du tout abandonner ça. Je pense que
non, et puis c'est pas la peine.
Deadpool, ça doit être un des films les plus attendus.
Ouais.
Qui va aller dans cette direction-là aussi. Et puis, il n'y a pas besoin de mettre fin à ça dans l'immédiat. Je sais que les gens sont peut-être un peu fatigués. Je ne sais pas d'ailleurs, je ne sais pas si c'est vrai ça, du multivers.
Alors, un peu fatigué du multivers, je pense que oui. Le truc, c'est que Secret Wars, je veux dire, par rapport à Majors, tu peux tout à fait faire Secret Wars et t'arranger, trouver une pirouette pour... Si Majors, ils ne veulent plus l'avoir dans le film, comme je disais, tu peux trouver moyen. Et avoir quand même Kang et Secret Wars, il n'y a pas de problème. Ça fera un petit peu wink-wink. Ah, mais j'arrive pas à croire que c'est toi qui es là maintenant. Oui, bah, c'est moi, je suis là et on l'accepte et on continue, tu vois, comme ils ont changé War Machine. Oui. Mais pour ce qui est du multivers et que les gens en ont marre, oui, je crois que le multivers, on commence à en avoir soupé. Et Secret Wars pourrait amener une fin au multivers. Mais surtout, le vrai problème, et c'est un problème connexe, il y a des gens qui disent « Oh, super-héros fatigue, les gens en ont marre des films de super-héros, ça y est, la mode est passée, machin ». Moi, je suis pas du tout d'accord, mais du tout. Le problème, c'est pas qu'il y a trop de films de super-héros. Le problème, c'est qu'il y a des mauvais films de super-héros. La solution, c'est pas d'arrêter de faire des films de super-héros, c'est d'en faire des bons. Je veux dire, si tu fais des bons films, les gens vont les voir, vont les aimer, et il n'y a pas de problème. Le souci du MCU, c'est qu'ils font plus de bons films. S'ils se remettent à faire des bons films, bah, ils regagneront leur public. Entre parenthèses, ils font encore beaucoup d'argent, donc ça va. Mais il suffit de faire des bons films, c'est pas compliqué. Je peux leur dire, hein, s'ils sont pas au courant. Moi, je peux aller voir Feige et je lui dis, mais ah, t'as pas compris, il y a un truc. Fais des bons films et tout ira mieux. Et là, il va faire, ah ouais, merde, j'y avais pas pensé.
Ah, mais oui,
c'est ça, tu vois. Non, mais vraiment, tu vois, je pense pas qu'il y a de super-héros fatigues. Enfin, un petit peu, peut-être. Alors, mais il y a suffisamment de gens qui aiment ce genre et cet univers pour faire tenir un MCU à partir du moment où les films sont cool. C'est tout, voilà. C'est juste ça dont t'as besoin. Basta.
Ouais, et d'ailleurs, sur l'aspect succès en salle, en fait, la problématique, elle dépasse, hein, assez loin juste les super-héros. C'est quasiment tous les blockbusters aujourd'hui qui ont des sorties super incertaines, avec parfois des flops, même pour des films qui sont pas forcément des films de super-héros, quoi. Il y a vraiment un truc qui se passe dans l'industrie du cinéma autour des énormes blockbusters. Je pense qu'il y a quand même une réflexion à avoir parfois sur les budgets qui sont quand même parfois délirants pour un résultat à l'écran pas toujours probant, quoi.
Mais tu penses à The Marvel, mais... toi.
Alors, je pense à The Marvel, mais ouais, il y a plein. Enfin,
bon, il y a Secret Invasion aussi, mais c'est pas au cinéma. Mais oui, clairement.
Mais Secret Invasion, c'est quand même 250 000 balles, quoi. Enfin, millions de dollars.
Oui,
c'est quand même hallucinant, quoi. Donc voilà, je m'inquiète pas pour eux. Ils vont s'en sortir.
Tu sais, je m'inquiète pas pour eux, moi.
Avec des bons films, hein. Non, mais.
Oui, c'était il y a quoi? Ça commence à faire quelques mois où. Enfin, quand s'est passé le shake-up chez Disney, c'était il y a quelques mois. Je peux bien comprendre que Feige, qui reprend le contrôle maintenant du MCU, ne peut pas en deux mois corriger tout ce qui est déjà sur les rails. Mais je me dis, à un moment, il va falloir. Bon, il sort Quantumania, il est prêt, il faut le sortir, il faut rentrer de l'argent, ok. À un moment, la scène de Marvels avec les X-Men, par exemple, je sais pas, moi, je l'aurais fait différemment. Elle est moche, quoi. Là, je me demande, est-ce que c'est lui qui est d'accord pour faire ces trucs-là aussi? Bon, bref, enfin, on verra dans les années à venir. Mais disons que si en 2024, ça commence pas à aller un petit peu mieux.
Alors, 2024, c'est simple, il y a un seul film. Et il y a une seule série, je crois. Peut-être pas une seule série, mais. Parce qu'il y a Echo qui arrive en janvier, qui déjà devrait permettre aussi de changer un peu d'air, hein, côté ouais. Ambiance MCU, CGI et tout, donc ça va être chouette. Et après, c'est que Deadpool en 2024. Et par contre, il y a effectivement 2025, c'est là où ça redémarre, où il y a, je sais plus, 5 ou 6 projets qui vont débarquer. Donc j'espère que... Ouais, moi, je pense que Deadpool a une histoire de production un peu particulière par rapport au MCU, puisque du coup, je crois que c'est toujours les équipes des Deadpool qui est aux manettes. Je sais que le film est super attendu, les deux films ont été adorés par les fans. Moi, je suis un peu plus mitigé, mais peu importe. Ouais. Mais pour moi, ça compte pas comme un... En tout cas, bon, mais peut-être que ça va me faire mentir, mais ça compte pas comme un vrai projet qui va être signifiant pour la façon de faire du MCU. Mais effectivement, les projets à partir de 2025, si on est toujours dans ce même schéma les mêmes problématiques, je commencerai à trouver ça vraiment inquiétant quand même.
Ouais, je suis d'accord. Entre parenthèses, pour 2024, des studios Marvel, on n'a que Deadpool, effectivement, mais on a également d'incroyables productions de Sony. On a Madame Web. Qui est animé, je crois. Mais on a.
Non,
aussi...
Madame Web, c'est live. Hein.
C'est live. Ah oui, d'accord. Ça arrive en février, on n'a rien vu encore. Bon, pourquoi pas. On a aussi Venom 3. Waouh! Et Kraven the Hunter. Oh, oh, oh. Et bien sûr, Beyond the Spider-Verse, que lui, on attend beaucoup. Il y a aussi Spider-Man Freshman Year, qui est un truc animé sur Disney+. Et Marvel Zombies qui a été annoncé, et Agatha Coven of Chaos. Donc il y a quelques séries.
Ah, mais
tu
oui.
Vois. Donc il y a quelques séries, mais oui, c'est une année light, on va dire, à la fois pour le nombre de productions et pour leur importance, leur signification. Et peut-être, qui sait, qu'on va être agréablement surpris par Sony avec Venom 3. Tout à coup, ils vont nous faire un bon film. Qui sait, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise.
Tu me diras s'il est bien, quand même.
Ouais, je ne sais pas si c'est en novembre 2024. Il y a Kraven avant, en août. Oui. Kraven, pourquoi pas ? J'aime bien, comment il s'appelle ? Merde, j'ai même pas vu...
Aaron Taylor-Johnson.
Aaron Taylor-Johnson, ouais. J'ai même pas vu, comment il s'appelle, le vampire, Mobius. J'ai même pas vu le film.
Je l'ai vu en coin.
Ouais, en train de faire autre chose.
On est vraiment dans le... Je pense que c'est peut-être même moins bien que Venom.
Ah ouais. Mais
bon, parce que là...
C'est chaud. Bon, ouais. Enfin, nous, on aura des choses dont on pourra vous parler. Hein. Il y a Echo, il y a Madame Web, il y a Deadpool, il y a plein de choses. Mais oui, le MCU n'a pas l'air non plus... c'est pas les années fastes du MCU. Espérons que ça reviendra en 2025. Je pense qu'on n'a pas fini de dire ça. Mais Deadpool, quand même, il faut noter qu'il y a Deadpool et Wolverine. Et ça, tu vois, ça peut être l'opportunité, si c'est bien fait, bien écrit...
Je pense que ça va ramener des gens en salle. Hein. Ça, y a plein, Wolverine, c'est quand même un sacré personnage des comics au cinéma. Quoi. Donc, quelque part, je suis un peu déçu parce que je trouvais son au revoir parfait dans Logan. Quoi. Mm. Mais bon, allez, pour un peu de fun, je voudrais pas mon plaisir de le revoir en costume jaune. Ouais.
Très bien. Bon, je crois qu'on a fait le tour hein, de toutes nos petites histoires. On fait jamais ça, mais tu mets quelle note, toi, à Loki saison 2 ?
Ah, moi, je mets un 7.
Un 7 ? Ok. Ouais. J'ai l'impression qu'un 6, c'est un peu sévère, mais je me dis c'est plus que la moyenne. Donc, moi, je lui mettrais un 6.
Ok, un 6 label. Comme...
Ouais, un petit peu. Non, même pas. Non, c'est même pas un 6 label. C'est juste que les 20 dernières minutes sont très cool, mais ça rattrape pas. Tu vois, c'est comme. Si on parle de Nier Automata, par exemple, le générique est incroyable, mais ça rattrape pas toutes les merdes qu'il y a que tu t'es tapé pendant 19 heures, tu vois. Donc, c'est pas parce que la 20e heure est bien que. Donc. Merci de nous avoir suivis. Johan, tu es toujours sur Blue Sky.
Je suis toujours sur Blue Sky et le ciel est bleu, donc vous pouvez venir voir par vous-même.
Magnifique.
Donc Johan T, je crois. Tu vois, je suis pas dans le game de l'autopromo des réseaux
non.
sociaux.
Non, écoute, Blue Sky, Johan T, on viendra te voir. Pour ma part, c'est notre Patrick un petit peu partout. Venez sur le Discord, on parle beaucoup dans le channel, enfin dans le sujet du forum, le repère des supers. On parle de plein de trucs, de projets qui arrivent, de projets qui ont été faits, de plein de sujets de super-héros. Donc venez nous rejoindre. Et puis, on se retrouve, je ne sais pas quand, au plus tard pour Echo, mais ça fait long, peut-être qu'on aura l'occasion de se retrouver avant. Et puis sinon, si on ne se retrouve pas avant, bonnes vacances, bonnes fêtes, un petit peu, un petit peu en avance. Et Marvel est bien, et DCU est bien. On vous fait des bisous. Ciao à tous.
Ciao.